prend un sens.
Bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est Pascal Parinet, psychanalyste et gestalt thérapeute avec Marie-Laurence, son épouse. Il nous propose à travers des parcours adaptés aux situations diverses de chacun, et cela au sein de l'Institut de formation psychrétien, une aide thérapeutique qui permet de se réconcilier avec soi-même dans toutes les dimensions de son humanité, et avec les autres aussi bien sûr, dans la perspective d'être plus disponible à l'accueil de l'action de Dieu dans notre vie. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, ce soir, eh bien, nous allons, lors de notre rencontre, traiter cette question, voir comment on peut gérer la culpabilité. Comment gérer la culpabilité ?
Voilà, parce que c'est un sentiment que tout le monde connaît, finalement, qu'on a tous connu, qu'on connaît à différents moments, en fonction oui. des événements, en fonction des périodes de notre vie. Voilà, soit à l'occasion d'une erreur, d'une faute.
Oui.
Pour une erreur, ça ne devrait pas être une vraie paillarde de culpabilité. Pour une faute, oui.
Erreur et faute, oui, c'est deux choses différentes.
Oui, parce que tout le monde a droit à l'erreur.
Voilà, oui.
Et par contre, une faute, ça induit une notion de bien ou de mal quand on fait une faute.
Oui.
Une erreur,
il peut
y avoir des conséquences.
Hein, oui, bien sûr.
Mais c'est pas la même chose.
Oui, d'accord. En tout cas, quand c'est une erreur, il ne devrait pas y avoir de culpabilité.
En principe, non. On peut se sentir responsable, vouloir
oui.
corriger,
oui.
Mais on ne devrait pas ressentir de culpabilité.
Mmh. Voilà. Alors, on va voir que c'est plus complexe que ça aussi, mais comment on va voir cela ? Parce qu'il y a différents aspects de la culpabilité.
Alors, oui, il y a différents aspects et je crois que d'abord, ce qui est important de prendre, c'est prendre conscience, c'est ce qu'on appelle la culpabilité, on l'appelle aussi la conscience morale. C'est en lien avec la conscience morale.
Ah oui, oui.
Et donc, la culpabilité, elle va être en lien avec notre morale et la façon dont on nous l'a enseigné, finalement. Quelqu'un qui n'aurait aucune morale, par exemple, n'aurait pas de culpabilité. Et quelqu'un qui aurait une morale très rigide ou extrême ressentirait la culpabilité pour des toutes petites choses.
Presque maladie, quelque chose de pathologique.
Voilà,
oui,
ça peut virer parfois à la pathologie, la culpabilité.
Alors, selon la conscience morale, et donc... si elle n'est pas ajustée, éclairée, on peut basculer. S'il n'y a pas de conscience morale, ou peu,
voilà,
peu,
y a peu de culpabilité,
et au contraire,
s'il y en a trop ou une morale beaucoup rigide. Trop rigide, oui. À ce moment-là, il y aura beaucoup de culpabilité.
Voilà, donc ça c'est déjà un point pour situer. Donc on verra qu'il y a, il y en a différentes formes aussi.
Voilà, il y a des on va voir ça. Et puis on peut se poser la question, qu'est-ce que c'est finalement que la culpabilité ?
Alors qu'est-ce que c'est que la culpabilité ?
Est-ce que c'est une prise de conscience de nos fautes ou de nos erreurs?
Oui, comme
on a
disiez,
vu
oui.
Certaines personnes pour une erreur vont se sentir coupables. Est-ce que c'est un sentiment qui nous fait plus ou moins souffrir en fonction des circonstances? Est-ce que c'est une émotion?
Oui.
Est-ce que c'est une maladie? Et parfois ça peut l'être. Ou en tout cas le symptôme d'une maladie, peut-être plutôt que la maladie en elle-même. Est-ce qu'il existe une bonne culpabilité qui serait saine et une qui serait malsaine? Et là, on verra que oui, c'est pas tout à fait la même chose.
Est-ce que là me vient une question? Est-ce que donc culpabilité liée à la conscience morale, bon peut-être qu'aujourd'hui ça existe moins, mais quand on parlait d'avoir des scrupules,
Alors les scrupules, Alors, c'est dû à la culpabilité, bien sûr.
Oui.
Puisque dans les scrupules, la personne se sent extrêmement coupable. Et puis, il y a un aspect qu'on pourrait dire obsessionnel. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui revient en permanence, que la personne se répète sans arrêt. Et donc, c'est un mélange à la fois d'obsession et de culpabilité.
Bon, c'est ça, parce que la petite Thérèse a eu la maladie des scrupules à un moment donné.
Oui. Voilà, et ça, on pourrait dire que les scrupules, c'est de l'ordre d'une problématique, et quand c'est beaucoup, c'est de l'ordre même d'une maladie psychologique, à la fois sur un versant obsessionnel, avec une forte culpabilité.
Voilà, on voit qu'il y a pas mal de...
Voilà, et dans ce cas-là, on est dans le pathologique et dans quelque chose de malsain.
Oui, de malsain, bien sûr. Oui. En tout cas, la culpabilité, elle occasionne une souffrance plus ou moins grande.
Oui, et voire extrême, pour certaines personnes. Pour la majorité des personnes, ça peut nous faire souffrir un peu. En même temps, on verra, ça peut être une bonne chose. Il y a une bonne culpabilité. Quand on fait quelque chose de mal, c'est pas plus mal de se sentir coupable. Et puis, pour d'autres, ça va être une énorme souffrance, parfois même qui peut mener à la dépression ou à des choses assez graves.
Alors voilà, on voit qu'il y a beaucoup de questions autour de la culpabilité, puis on va voir comment en sortir, bien sûr. Alors, quelle différence y a-t-il entre sentiment de culpabilité et conscience de culpabilité?
Alors, déjà, le sentiment de culpabilité, c'est une sensation. C'est un sentiment, quelque chose qu'on ressent en nous.
Oui.
Donc c'est une sensation qu'on nomme comme un sentiment de culpabilité. Et donc c'est une sensation qui va être chargée d'émotions.
Oui.
Et on verra qu'il y a différentes émotions. Souvent c'est quelque chose d'assez diffus d'ailleurs, c'est pas très très clair. Quand on se sent coupable, on sait le nommer. Parce que c'est une expérience qu'on a tous vécue et qu'on a vécue depuis notre enfance. Donc c'est quelque chose qu'on sait assez nommer. Pas tout le monde d'ailleurs. Certaines personnes ne savent pas nommer que c'est de la culpabilité. Mais grosso modo, beaucoup savent le nommer.
Et comment on peut reconnaître? Est-ce qu'il y a des signes, justement, pour reconnaître si on ne sait pas voir... si on a tel symptôme, par exemple, on peut penser que c'est de l'ordre de la culpabilité.
Alors, Déjà, il y a tous les symptômes physiques comme l'estomac noué, la nervosité, la gorge serrée, le fait d'être angoissé. Mais ça, c'est pas encore la culpabilité. C'est souvent des symptômes qui vont accompagner la culpabilité. Mais on peut être angoissé sans ressentir la culpabilité.
Oui.
Parfois, il n'y a même pas de ressenti, il y a juste l'impression de se sentir en faute ou de se sentir coupable. Et la personne ne sait pas toujours de quoi, d'ailleurs. Oui. Hein. Souvent, elle va se sentir coupable, mais elle va chercher...
Peut-être parce que c'est enfoui, parce qu'on pourrait bien le voir.
Voilà, parce que c'est enfoui, parce que c'est... En fait, c'est une culpabilité qui n'est pas liée directement à ce qu'elle est en train de vivre, mais qui date.
Qui remonte
Et qui remonte. Mmh. Et qui va se greffer un peu sur toutes les choses. Il y a des personnes, pratiquement, qui se sentent coupables de tout.
Ah oui.
De ne pas faire assez bien, de ne pas être à la hauteur. Mmh. Alors, dans leur travail, sans arrêt, ils vont se sentir coupables parce qu'ils pourraient faire mieux.
C'est un peu du perfectionnisme, ça.
Alors, ça rejoint le perfectionnisme. Et le perfectionnisme, souvent, entraîne de la culpabilité.
Ah oui.
Justement, parce que la personne sent que... ou en tout cas a l'impression qu'elle aurait pu faire mieux, donc elle est insatisfaite de ce qu'elle a fait.
Mmh.
Et du coup, elle peut se sentir soit insatisfaite, là c'est pas de la culpabilité, soit coupable de ne pas avoir fait ce qu'elle aurait aimé faire dans l'idéal.
Mmh. Alors, donc... On dit que c'est un ressenti. Hein,
voilà, c'est un ressenti. Alors, ce qui caractérise...
Mais comment ça va se traduire, ce sentiment?
Voilà, ce qui caractérise vraiment la culpabilité, ça va être toutes les pensées d'auto-accusation. Donc, la personne s'accuse. Alors, souvent, d'ailleurs, sans s'en rendre compte, elle va dire... c'est idiot ce que je dis, c'est bête ce que je dis.
Oui.
Mais... Elle va dire ça comme si elle parlait de la météo, sans réaliser qu'elle est en train de s'auto-déprécier.
Mm-hmm.
Donc il y a l'auto-accusation, j'ai mal fait, j'ai pas fait assez bien.
Oui.
Il y a l'auto-dépréciation, c'est bête, c'est idiot, je suis nul. Et puis aussi une tendance à l'auto-punition. Alors là, qui souvent est moins consciente.
C'est-à-dire, oui.
Voilà, alors soit en se mettant en situation d'échec, soit au travers de la culpabilité, la personne va se priver de choses qui pourraient lui être agréables, par exemple, ou faire d'autant plus des choses désagréables.
Justifier. Cette dépréciation
C'est d'une certaine façon, avec cette culpabilité, elle va... Le problème de la culpabilité, c'est qu'elle est associée à des choses de l'enfance. Et quand on est enfant, quand on est coupable, on est puni. Et puis même adulte, d'ailleurs,
la loi
punit les coupables.
Oui, bien sûr, oui.
Et donc, du coup,
la
personne sentant en elle une culpabilité, elle va chercher une punition. Alors, c'est pas forcément des punitions, d'être privé de quelque chose, mais parfois, oui, ça peut être de se priver d'un plaisir, d'un gâteau, de je sais pas trop quoi.
Mm-hmm.
Voilà. En fait, tout ce qui va aller à l'encontre d'un certain bien-être, la personne va s'en priver parce qu'elle se sent coupable et à travers ça, ça va être une façon aussi de se punir. Voilà. Ou on pourra dire aussi toutes les mises en échec, les personnes qui sont en échec d'une façon un peu répétitive,
oui, oui.
C'est aussi une façon de se punir.
Ah oui. Et il y a de la culpabilité derrière.
Alors, il y a très souvent de la culpabilité derrière qui n'est pas toujours consciente.
Alors, donc, on voit que le sentiment de culpabilité concerne le ressenti. Hein,
voilà, qui ait eu une faute ou une intention ou un acte ou pas, ça n'a aucune importance.
Ah oui, oui.
C'est un sentiment, donc la personne se sent coupable. Après, ça peut être justifié. Voilà, elle a pu vraiment commettre quelque chose de mal ou pas du tout.
Ah oui.
Là, c'est vraiment lié au vécu intérieur. Soit ça correspond à la réalité, dans ce cas-là, c'est normal.
Parce qu'il y a eu un acte. Si ça correspond à une réalité, il y a eu un acte négatif.
Voilà, et dans ce cas-là, c'est normal.
Oui, c'est normal,
de prouver ce sentiment.
Mais ça peut être aussi sans raison apparente.
Mais ça peut être sans raison apparente, même si la personne veut le justifier par « j'aurais pu faire mieux », j'ai pas bien fait », enfin... souvent
que j'ai fait ou qu'est-ce que j'ai fait non
pas trop. La personne est plutôt dans l'autocritique de faire mieux de pas bien faire de sang ou l'autodépréciation, ce que j'ai dit c'était idiot, j'aurais pu dire autre chose
D'accord, oui. Et donc tout ça, ça tourne autour de cette sphère de la culpabilité.
Voilà, la culpabilité, de la critique de soi, en fait.
Ah oui.
Quand on est dans l'autocritique, souvent il y a un fond de culpabilité.
D'accord. Alors on va poursuivre dans quelques instants, et bien sûr nos auditeurs sont invités à nous rejoindre à partir de cette question que tout le monde a vécu ou vit, la culpabilité. Donc le téléphone pour nous rejoindre c'est le 01 56 56 44 00. Nous allons écouter tout de suite Morane qui chante « Pour les âmes, pour les hommes ».
Radio Notre-Dame. Je suis tout à l'envers.
Morane pour les âmes, pour les hommes. Ce soir, nous parlons avec Pascal Parinet, qui est psychanalyste et gestalt-thérapeute, de la culpabilité. La culpabilité, comment gérer la culpabilité?
Comment gérer, comment en sortir quand elle est pathologique ou injustifiée.
Voilà, oui. Alors, vous nous parliez du sentiment de culpabilité qui est lié à un ressenti. Le fait d'être coupable ou pas, voilà. Et puis, alors, il y a la conscience de culpabilité. Alors, quelle différence, justement, entre ce sentiment que vous avez expliqué, puis la conscience de culpabilité.
Donc, le sentiment, c'est un ressenti. La conscience, c'est le fait d'être conscient de son ressenti, parce que c'est... Peut-être ça paraît évident pour beaucoup de personnes, mais c'est pas si évident que ça. Et finalement, il y a beaucoup de personnes qui vont ressentir une culpabilité ou avoir ce sentiment sans être capables de le nommer et de se dire en eux-mêmes « je me sens coupable ». Donc, ils vont ressentir un mal-être avec il y aura de l'auto-accusation, de l'auto-dépréciation, mais ils n'auront pas forcément la conscience de se sentir coupable. Et donc, la conscience de culpabilité, c'est cette capacité à nommer ce ressenti.
Par exemple, je me sens... je ne me sens pas bien, ce mal-être, c'est de la culpabilité.
Voilà.
Donc le fait de le dire,
de pouvoir le nommer.
Oui. Ah. Parce que nommer, on le met déjà devant soi, on n'en est pas...
Tout comme il y a... C'est vrai, on pourrait dire, pour beaucoup de ressentis. Il y a des personnes qui ont une boule à l'estomac, par exemple, et qui n'ont pas conscience que c'est de l'ordre de l'angoisse ou la gorge serrée, qui se disent « Ah ben, je ressens ça ».
Oui, oui.
Mais
de là à déduire que c'est de la culpabilité, c'est lié à ça, c'est un pas supplémentaire.
C'est un pas supplémentaire où la personne peut nommer ce qu'elle ressent et déjà, c'est déjà quelque chose. On pourrait dire il y a deux pas. D'abord de ressentir. C'est le premier pas, de sentir ce qui se passe, quelles sont les sensations qui nous habitent. Et puis après, de pouvoir nommer et donc d'être conscient de ce ressenti.
Alors, par exemple, ça peut être, puisque c'est le sentiment de culpabilité, un sentiment est ressenti. Ça peut être un sentiment, je ne sais pas, de colère ou de tristesse ou de quelque chose. Et donc voilà, on sait que c'est de la colère, mais on ne voit pas que derrière cette colère il y a,
culpabilité ou de l'agressivité, par exemple. Ça peut arriver avec l'agressivité. La personne va sentir ou va percevoir son agressivité, mais sans pouvoir faire le lien avec un sentiment de culpabilité. Et du coup, elle n'aura pas conscience, elle n'aura pas cette conscience qu'elle se sent coupable.
Alors, quand vous parliez d'autodépréciation, par exemple, dans le sentiment de culpabilité, c'est quelque chose que l'on ressent soi, mais c'est pas une autre personne qui vous dévalorise ou...
Non, alors ça, bien sûr, si quelqu'un nous dévalorise, on peut se sentir coupable. On peut se dire, je suis pas aimable, ou on peut se dire, si cette personne m'aime pas, c'est parce que je suis pas assez bien.
Quand
on est dévalorisé par quelqu'un d'autre, forcément, on peut se sentir coupable.
Mais pas forcément.
Dans la mesure où on croit l'autre.
Oui,
c'est-à-dire où on croit que la parole de l'autre est plus importante que ce qu'on pense soi-même. C'est pour ça qu'il faut toujours se méfier des paroles des autres sur soi. Ou de toute personne sur quelqu'un d'autre.
Oui, c'est ça. Surtout si la personne a un ascendant, voilà. Hein, ouais. C'est...
voilà, mais après, donc ça, disons, quelqu'un qui critique... Qui critique une personne, ben la personne peut se sentir coupable de ne pas être à la hauteur, de ne pas bien faire, de ne pas être aimable.
Mais elle peut mettre une distance par rapport à cela, voilà, et rester elle-même.
Voilà, exactement. Et si elle se sent coupable de ça, c'est bien parce qu'elle porte déjà en elle un sentiment de culpabilité. Mmh.
Voilà, oui. Il faut faire la différence.
Voilà, et du coup, ça vient résonner en quelque sorte, ou en tout cas, son sentiment de culpabilité vient faire résonance avec les paroles de l'autre. C'est pas parce que l'autre critique qu'elle se sent coupable, c'est. Oui. Elle se sent d'abord coupable et quand l'autre critique, ça fait encore plus augmenter ce sentiment.
Sinon, ça glisse comme.
Sinon, la personne sera en mesure de mettre une distance entre elle et les paroles de l'autre et de se dire, il dit ça de moi, mais je suis pas d'accord avec ce qu'il dit.
Bien sûr, ça le concerne. C'est le retour à aux responsabilités de la personne,
voilà,
quoi.
Ouais.
Aux paroles qu'elle peut prononcer. Alors, donc, conscience de culpabilité, c'est on est conscient, c'est de son ressenti.
On est conscient de son ressenti, on sait le nommer.
Oui.
Voilà, et c'est déjà une étape importante parce que à partir de là, on peut se dire, je sais mon mal-être, je sais à quoi il correspond, donc je peux me donner les moyens de changer ça.
Voilà, toute prise de conscience, c'est un pas.
C'est déjà un pas vers un mieux-être ou vers une guérison.
Voilà. Alors, la conscience de culpabilité, c'est ce qui permet donc de nommer.
Hein,
donc c'est une étape. Mais qu'est-ce donc, là on a vu sentiment de culpabilité, conscience de culpabilité, mais qu'est-ce donc que la culpabilité?
Alors,
vaste programme.
En fait, c'est un terme assez générique et assez vague.
Oui.
Qui va recouvrir tout un ensemble d'émotions telles que la colère, la peur, la tristesse, l'angoisse. Et pour le coup, en tout cas, quand on veut s'en libérer, il va être utile d'aller voir qu'est-ce que c'est exactement. Parce que la culpabilité, finalement, c'est un mélange.
Oui.
C'est un mélange.
Cocktail.
C'est un cocktail émotionnel.
Oui.
Qu'on sait reconnaître comme culpabilité ou pas.
Ou pas.
Pour certaines personnes, mais en tout cas que les autres sauront dire c'est de la culpabilité.
Les autres peuvent plus s'en apercevoir que.
Ça dépend des personnes, en fait. Il y a des personnes qui au contraire, ressentent trop et s'en aperçoivent de trop.
Oui, bien sûr, oui.
Du coup. Mmh. Et puis d'autres ressentent, mais n'arrivent pas à nommer.
Alors, vous parliez là vous avez énuméré un certain nombre d'émotions, la colère, la peur, la tristesse, l'angoisse. Derrière ces émotions-là, est-ce que ces émotions-là, quand on les ressent, c'est pas forcément de la culpabilité?
Non, c'est pas forcément. On peut être en colère sans se sentir coupable, ou être angoissé sans se sentir coupable. Voilà, c'est un cocktail émotionnel où on va retrouver un peu ces émotions-là. Et d'ailleurs, souvent, la culpabilité, il y a de la colère qui est retournée contre soi. Dans la culpabilité, c'est extrêmement fréquent qu'il y ait en fond une colère.
Contre soi, pas contre un autre, c'est contre soi.
Et oui,
la culpabilité.
Si on est en colère contre l'autre, on peut ne pas aimer être en colère, se sentir coupable d'être en colère éventuellement. Mais quand il y a culpabilité, il n'y a pas toujours conscience de la colère. D'accord. Donc c'est une colère qu'on retourne contre soi sans trop savoir que c'est une colère.
Et si on peut la projeter, non, sur l'autre, non?
Alors,
c'est plus de la culpabilité. Là,
voilà,
c'est...
quand la personne réalise qu'elle a une colère, qu'elle retourne contre soi et qu'elle prend conscience que cette colère, finalement, elle s'adresse à quelqu'un, à ce moment-là, elle se sent plus coupable. Elle se sent en colère, mais
elle
plus
sent
coupable.
En colère, donc oui. D'accord.
Et voilà, et ça lui permet de résoudre cette culpabilité.
C'est une façon de résoudre, peut-être de résoudre, mais mal résoudre si on
pas mal, c'est une étape.
Ah, c'est une étape, d'accord.
C'est une étape. Après, faut voir qu'est-ce que la personne fait cette colère. Dans un premier temps, elle l'a retournée contre elle en culpabilité.
Elle la sort.
En tout cas, elle est consciente que cette colère s'adresse pas à elle.
Oui.
Et qu'est-ce qu'elle va en faire? Est-ce qu'elle va pouvoir changer la situation, mettre des mots dessus? Ou dans certains cas, est-ce que ça va être de la colère qui va viser à se venger? Dans ce cas-là, ça sert à rien. Enfin, c'est nocif.
Oui.
Mais si elle arrive à comprendre que finalement cette culpabilité était une colère pour des événements, elle va pouvoir en faire quelque chose de positif aussi.
Bien
changer
sûr.
La situation. Enfin.
Oui. La prise de conscience va faire que.
Voilà.
Il y a un cheminement qui va progresser vers une solution.
Voilà.
Alors, donc...
voilà, donc c'est un mélange d'émotions, finalement, qu'on ressent comme un mal-être. Et ce mal-être, on sait le nommer en général, et on sait dire c'est de la culpabilité.
Voilà. Alors, la culpabilité, donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut encore la définir justement,
oui, alors on
quand
la
on ressent, voilà.
En fait, on la ressent quand on éprouve un décalage entre soit ce que nous sommes, ce que nous avons fait, et souvent quand on pense culpabilité, on pense plutôt à ce qu'on a fait, mais aussi à ce que nous sommes, ou alors ce que nous préparons à faire.
Préméditer, ça peut être préparons à faire.
Me prépare à faire quelque chose.
Et puis je ressens.
Et je ressens de la culpabilité. Ou j'ai fait quelque chose et je ressens de la culpabilité. Ou je suis dans tel état et je ressens de la culpabilité. Donc, ces trois points-là, et puis qui sont décalés avec ce que nous aimerions être ou ce qu'on aimerait faire.
Oui. D'accord, il y a un décalage, oui.
Et enfin, qui sont décalés avec ce que nos valeurs nous disent d'être ou de faire. Donc, on retrouve les trois choses. Ce qu'on est, ce qu'on fait, ou ce qu'on prépare à faire. Ce qu'on aimerait être ou ce qu'on aimerait faire. Et puis, ce que nos valeurs nous disent.
D'être ou de faire. Donc, décalage. Le mot décalage. Il y a quelque chose qui n'est pas ajusté, donc décalé.
Voilà. Autrement, il y a ce que je suis et ce que je fais.
Oui.
Il y a ce que j'aimerais être ou faire. Donc, mon idéal, en quelque sorte.
Oui.
Et puis, il y a ce que me dit ma conscience morale, qui est assez proche de l'idéal. Hein. C'est quelque chose qui fonctionne un peu en duo. Donc, ce que me dit ma conscience morale de ce qui est bien et de ce qui est mal.
Alors, comment les psychologues voient ça, cette façon de dire ce que vous nous avez expliqué, là? Il y a des termes...
Ce que je suis, ce que je fais, c'est le moi. On va dire, en tout cas, la conscience de qui je suis, c'est le moi. C'est ce qui me fait dire je suis.
Oui.
Après, ce que j'aimerais être idéalement ou faire idéalement, c'est l'idéal du moi.
Ah,
c'est aussi simple que ça.
C'est simple, oui. L'idéal du moi, oui.
Et puis la conscience morale, c'est le surmoi.
Voilà, c'est des...
Donc, c'est que sur moi, c'est tout simple. C'est au-dessus du moi et qui juge.
Juge le moi et qui veut...
juge le moi et qui, du coup, va dire ce que tu fais là, c'est pas bien.
Voilà. Alors, ça peut être bien de juger, mais si c'est rigide, ça peut être une déformation.
Voilà.
Alors, on va poursuivre dans quelques instants. Je rappelle à nos auditeurs le téléphone 01 56 56 44 00. Nous parlons de la culpabilité, comment gérer la culpabilité, comment en sortir. On écoute tout de suite, c'est Marie Coutan qui chante le chant des hommes.
Radio Notre-Dame.
Des collines, dans des petits hameaux ou plus près de la ville. Quand on voit en tableau la verdure en vitrine, on suit pas le troupeau des chemins de tourisme. On choisit le terreau pour planter nos racines, et du vent et de l'eau pour cultiver nos rimes. C'est la vie qu'on donne, citoyen de l'égalité, et dans la terre que l'on façonne, qu'on verra se lever le blé. C'est au cœur de notre besogne, citoyen de fraternité, qu'on entendra le chant des hommes et qu'on verra la liberté. On voit sur des panneaux en Europe ou ailleurs des slogans, des drapeaux qui parfois nous font peur. Tout le monde connaît les mots, mais pour son petit bonheur, chacun défend sa peau et chacun fait son beurre. On s'en fout des héros, nous sommes des acteurs. On lève le rideau, oh, 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 on annonce la couleur. C'est la vie qu'on donne, citoyen de l'égalité, et dans la terre que l'on façonne, qu'on verra se lever le blé. C'est au cœur de notre besogne, citoyen de fraternité, qu'on entendra le chant des hommes et qu'on verra la liberté. On affirme bien haut ce que d'autres aiment taire. La haine est un fléau qui naît de la misère. C'est pour des idéaux que l'on marche à l'envers, pas pour des capitaux ni pour du nucléaire. Nous on veut du boulot, pas des bouts de salaire. Garder la tête haute et vivre en solidaire. On se bat pour des mots, la parole libère. On construit des réseaux, chacun y met sa pierre. C'est la vie qu'on donne, citoyen de l'égalité, et dans la serre que l'on façonne, qu'on verra se lever le blé. C'est au cœur de notre besogne, citoyen de fraternité, qu'on entendra le chant des hommes et qu'on verra la liberté. C'est la vie qu'on donne, citoyen de l'égalité, et dans la terre que l'on façonne, qu'on verra se lever le blé. C'est au cœur de notre besogne, citoyen de fraternité, qu'on entendra le chant des hommes et qu'on verra la liberté. C'est la vie qu'on donne, et dans la terre que l'on façonne, qu'on verra se lever le blé. C'est au cœur de notre besogne, qu'on entendra le chant des hommes et qu'on verra la liberté.
Donc, c'était Marie Coutan, le chant des hommes. Ce soir, nous parlons de la culpabilité, comment en sortir. Donc, c'est tout un chemin, parce que, voilà, vous évoquiez justement, est en jeu par ce qu'on appelle le moi, l'idéal du moi et le surmoi. Voilà.
Mais pour simplifier, parce que ça, ce sont des termes
oui,
un peu psy, enfin même complètement psy. Ce qu'on pourrait dire, c'est que finalement, tout ça, c'est l'héritier de notre enfance. C'est-à-dire que le surmoi, c'est tout ce qu'on a intégré des règles, des interdits, de la morale pendant notre enfance. Et l'idéal du moi, c'est tout ce qu'on a intégré en nous, des valeurs idéales, des idéaux. Alors les idéaux, et comme c'est dans notre enfance, souvent ce sont des idéaux qui nous sont transmis par les parents, par la famille, les éducateurs, par les adultes, qui sont autour de nous, et puis pour les règles morales, c'est pareil. Sauf que on les a intégrés avec une vision d'enfant. Et donc, qui correspond pas forcément à ce qui nous est transmis. Quand on transmet quelque chose, on sait bien que ça peut être reçu différemment en fonction des personnes. Voilà. Et du coup, quand on parle de ça, finalement, on parle de comment l'enfant a reçu en lui, intégré ou mal intégré, toutes les règles de vie qu'on lui a enseignées, toute la morale qu'on lui a enseignée, toutes les valeurs et les idéaux qu'on lui a enseignées. Et s'il les a bien comprises, bien intégrées, ça se passe bien. Voilà. Tout ça, c'est en lien avec l'Œdipe. En plus. Donc, en fonction de comment se passe l'Œdipe, ça s'intègre bien ou ça s'intègre mal ou ça s'intègre pas.
Oui, la culpabilité, on comprend, c'est un rapport, donc c'est quand même assez complexe.
Alors, c'est assez, disons, la surface est assez simple.
Oui, la surface. En surface.
Voilà, il faut voir ça comme un iceberg.
Oui, d'accord.
Donc, la partie visible, donc on pourrait dire c'est simple. Je me sens coupable de ça. La partie immergée,
plus profonde que la partie visible, dans l'iceberg.
Plus c'est profond, plus c'est compliqué. Bon. En gros.
Alors, donc, on va peut-être poursuivre là dans quelques instants. On va écouter, vous pouvez nous rejoindre bien sûr, au 01 56 56 44 00. Nous avons en ligne tout de suite Marie-Christine. Bonsoir Marie-Christine.
Allô, bonsoir, je ne vous entends pas très bien.
Bon, écoutez, on va essayer de rectifier, de voir ce qu'on peut faire.
Un peu lointain, mais c'est tout.
Bon, écoutez, nous on vous entend bien en tout cas.
Tant mieux.
Alors on vous écoute.
Voilà, alors je voulais demander à M. Parinet si la culpabilité, il parlait d'idéal de soi, mais si la culpabilité ne pouvait pas être liée à une image trop ambitieuse de soi, trop orgueilleuse de soi. Parce que moi, j'ai été soignée justement pour des scrupules et de la culpabilité quand j'étais jeune. Bon, je m'en suis sortie, grâce à la foi chrétienne notamment. Et en fait, la psychiatre qui me soignait... il se trouvait que j'avais j'avais toujours le besoin de penser à moi en faisant référence à un idéal religieux vraiment surdimensionné, comme seuls les grands saints en ont. Et en fait, alors que j'avais même pas un rapport clair à ma foi, en plus c'était une image que je donnais extérieurement aussi, donc il y avait une part un petit peu d'hypocrisie, je dirais.
Oui,
donc
peut-être pas
d'hypocrisie. Je me disais oui, c'est orgueilleux d'être comme ça, et en même temps j'arrivais pas à me pardonner cet orgueil, et cette psychiatre me disait mais en fait vous voulez être trop bien, trop être quelqu'un de bien, alors vous ne vous pardonnez pas vos erreurs, vous vous aimez trop, en fait vous vous aimez mal, et de ce fait vous vous aimez pas. Alors, est-ce que vous pensez que c'est pas un peu raide comme formulation? Est-ce que vraiment c'est ça, ou est-ce que c'est plus complexe que ça? Qu'est-ce que vous en pensez?
Disons, après, les formulations, elles appartiennent à chacun. Je pense qu'il y a quelque chose de tout à fait vrai dans ce qu'elle dit. C'est-à-dire que, on a parlé de comment on intégrait la morale, comment on intégrait les idéaux en soi, étant enfant. Et en même temps, tout ça, ce sont des choses à la fois qui se font d'une façon inconsciente. C'est-à-dire que l'enfant, il n'est pas conscient par exemple, qu'il a certaines figures qu'il idéalise autour de lui et qu'il va les intégrer et qu'il va en faire après quelque chose qu'il doit atteindre. Et vous savez, pour les enfants, les personnes autour, les parents, sont un peu comme des dieux. Et du coup, l'enfant, il se retrouve avec l'obligation d'être un peu comme un dieu. Ou en tout cas, d'être avec une image idéale extrêmement élevée. Et c'est un peu ça qu'elle vous dit. Vous avez idéalisé des choses trop élevées et du coup ça vous empêche de vous aimer et vous vous sentez coupable.
Voilà. Oui, c'est ça, oui.
Mm-hmm. Voilà.
Quand ces idéaux trop élevés persistent après l'adolescence, enfin, quand ça dure jusqu'à l'âge de 30 ans, je dirais, après ça c'est assez, mais quand ça dure jusqu'à cet âge-là, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas un peu un refus de grandir aussi que de les entretenir, enfin, un refus inconscient, quoi?
Non, c'est plutôt que... C'est plutôt que... Non, enfin, les choses se passent normalement à l'adolescence. C'est-à-dire qu'à l'adolescence, le jeune va rejeter un peu tout de façon à pouvoir faire un tri. Il va à la fois rejeter, mais aussi idéaliser, c'est-à-dire que à la fois il va se mettre à la place des parents, par exemple, il va leur faire la morale, il va leur dire que ce qu'ils font c'est pas bien, qu'ils pourraient faire autrement. Enfin, à l'adolescence, il y a une inversion un peu des rôles pendant une période transitoire, qui fait que l'adolescent peut rejeter un peu les idéaux de ses parents et puis s'approprier ses nouveaux idéaux. Mais ça, c'est l'idéal. Mais souvent, ça se passe pas aussi idéalement que ça et ça se rejoue, un peu différemment. À 30 ans, on se repositionne aussi par rapport aux idéaux. D'abord, pour la première raison, c'est qu'on devient vraiment adulte à 30 ans. C'est là où, avant, on est un jeune adulte, en quelque sorte. À 30 ans, on est vraiment installé dans la vie adulte. Et puis, avec cette installation dans la vie adulte, parfois on est marié, parfois on devient parent. Du coup, il y a tout un repositionnement par rapport aux idéaux, à ce qu'on nous a appris, à ce que les parents ont transmis. Et donc, soit ça se fait vraiment beaucoup à l'adolescence, soit si c'est pas complet à l'adolescence, ça se finalise à la trentaine.
Oui, c'est ça. Enfin, moi, je sais que j'ai pratiquement pas eu d'adolescence.
Voilà.
Et qu'en fait, c'est à 30 ans vraiment que j'ai commencé à mettre un pied dans le réel, je dirais.
Voilà. Et du coup, ce que vous l'avez fait à 30 ans. Donc, mais c'est quelque chose d'assez classique et d'assez normal. Alors, quand on fait une crise d'adolescence, on en élimine une grosse part à l'adolescence et puis il reste peu de choses à la trentaine à régler. Et puis, finalement, on a tout à régler à la trentaine si on ne fait pas.
Oui, mais quand les... quand on est comme ça, très culpabilisé, etc., vous croyez pas qu'on attire aussi des situations où on va se sentir en culpabilité, enfin, je veux dire, où les gens vont vous accuser, vont vous dire que vous n'êtes pas à votre place, que vous... Enfin, moi, j'ai souvent eu des problèmes relationnels, quoi, où en fait, ouais. on me reprochait d'être trop centré sur moi-même, d'être... enfin, vous voyez, d'être un peu un trublion, hein. Et en fait, je me demande si le fait d'être coupable, on ne se positionne pas inconsciemment dans ce genre de situation. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Tout à fait, on a parlé un peu de la tendance à l'autopunition. C'est-à-dire, on verra, on en parle un peu après, Freud disait qu'il y avait, par exemple, des délinquants ou qui devenaient délinquants à cause de leur culpabilité inconsciente, d'accord. À cause d'une culpabilité inconsciente. C'est-à-dire que finalement, de se mettre dans une situation, quand on sent coupable, enfin, quand on a un sentiment inconscient de culpabilité, mais on le vit quand même, finalement, de se retrouver dans une situation où on est coupable, où on va être jugé coupable, au moins on sait pourquoi.
Oui, je comprends.
Et du coup, c'est rassurant. Et puis ça, donc il y a un côté rassurant. Au moins, on sait pourquoi on est coupable. Et puis l'autre bénéfice, c'est si on est coupable, on est un peu puni. Voyez. Donc du coup, il y a ces deux aspects qui se réunissent. En tout cas, quand il y a un sentiment inconscient de culpabilité. À la fois d'autopunition et puis de prise de conscience de cette culpabilité.
Oui, oui. En fait, moi, c'était une culpabilité dont j'étais consciente, mais je sais pas, j'étais toujours dans situation de me faire rejeter socialement.
Oui.
Voilà, et vous êtes sortie de cela ?
Ah oui, complètement. Oui, grâce au renouveau charismatique, notamment, et grâce que j'ai reçu. Voilà, et puis aussi, j'ai fait l'expérience aussi de communauté à Saint-Gervais et dans le renouveau charismatique à Saint-Le-Saint-Gilles, où en fait, c'était des communautés très accueillantes, très ouvertes, vraiment dans la miséricorde, et j'ai pas eu les problèmes. Parce qu'on réveille aussi les problèmes des autres quand on est comme ça.
Oui. Et puis aussi au travail de cette psychiatre aussi, finalement.
Oui, aussi.
Comment ?
Le travail de la psychiatre aussi.
Oui, le travail aussi avec la psychiatre, bien sûr.
Tout conjugué, voilà.
Tout ensemble, voilà.
Merci en tout cas,
Marie-Christine. C'est moi qui vous remercie.
Bonsoir.
Au revoir.
Bonsoir.
Au revoir.
Voilà donc comment gérer la culpabilité. Vous disiez que quand on voit en surface les choses, c'est assez simple, c'est mais assez ça simple. Se complique. Ça se complique quand on descend dans les profondeurs.
Voilà. Alors, en prenant l'image de l'iceberg.
Oui.
Voilà, parce que justement, cette culpabilité, souvent, elle s'enracine dans l'Œdipe.
Oui.
Donc, dans des choses qui sont refoulées, qui sont devenues inconscientes. Alors, ça se complique dans le sens où où chez la personne, c'est inconscient. Et donc,
faut plonger
ça
plus...
Ça veut dire le travail, c'est de retrouver la conscience de certaines choses de l'enfance ou de l'adolescence, hein, puisque...
Puisqu'on rejoue à l'adolescence.
On rejoue à l'adolescence. Voilà, donc c'est là où ça complique un peu. Et puis ce qui est conscient, en fait, souvent on est conscient des événements immédiats, on se dit là j'ai mal fait ou j'ai pas fait assez bien, mais ça veut pas dire qu'on a conscience de l'idéal, hein, c'est pour reprendre l'exemple du témoignage et du coup ce qui est simple, c'est de se dire je me sens coupable parce que j'ai l'impression de ne pas faire assez bien. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est de prendre conscience de cet idéal-là, de où il vient, et d'en faire quelque chose pour qu'on ne se sente plus coupable.
Merci Pascal Parinet, 01 56 2 fois 44 00. On se retrouve à 23h.
Radio Notre-Dame.
Chaque semaine, le cardinal André 23 analyse les événements qui font l'actualité. L'entretien du cardinal, c'est tous les vendredis à 21h30 et le samedi à 8h47 sur Radio Notre-Dame.
Bonjour, c'est Sophie de Villeneuve. Retrouvez-moi dans 1000 questions à la fois, l'émission qui répond à toutes nos questions sur la foi et l'Église. Devons-nous obéir au pape? L'Église condamne-t-elle l'homosexualité? Devons-nous craindre le jugement de Dieu? Chaque semaine, un invité répond, explique, éclaire. 1000 questions à la fois, c'est une émission qui ouvre toujours des perspectives, en partenariat avec le site croire.com.
1000 questions à la fois, avec Sophie de Villeneuve, tous les mardis à 21h30 sur Radio Notre-Dame.
Or ou métaux précieux, vous possédez peut-être des bijoux, montres, diamants dont vous souhaitez vous séparer.
À Paris, dans le 6e arrondissement, Boursorama achète en toute discrétion vos valeurs. Lingots, pièces cotées, diamants, platines, bijoux, montres, débris, ainsi que l'argent sous toutes ses formes.
Règlement immédiat, après estimation, expertise gratuite.
Boursorama, 125 rue de Sèvres, 01 43 06 16 21. 43 06 16 21.
Boursorama,
nous donnons un prix à vos valeurs.
La vidéo vous donne rendez-vous sur notre site internet www.radionotredame.com. Vous aimez écouter et réécouter vos émissions? Découvrez-les désormais en images. Du lundi au vendredi, connectez-vous dès 7h30 pour suivre nos matinales, Le Grand Témoin et La Voix est Libre depuis notre studio. Le samedi dès 10h, retrouvez Faustine Fayette en live avec toute l'équipe de mission. La vidéo en direct, c'est du lundi au vendredi de 7h30 à 10h, le samedi de 10h à 11h. Sur le www.radionotredame.com.
Ce soir, avec Pascal Parinet, psychanalyste et gestalt-thérapeute, nous parlons de la culpabilité, comment la gérer, comment en sortir. Donc, écoute dans la nuit, il est 23h.
Radio Notre-Dame.
Voilà, et bien sûr, pour nous rejoindre, le téléphone 01 56 56 44 00. Nous allons écouter tout de suite Sonia, je pense qu'elle est en ligne. Sonia, bonsoir.
Bonsoir, bonsoir Chantal, bonsoir Monsieur Parinet.
Bonsoir.
Je voulais témoigner de mon cas. D'un sentiment d'un problème de culpabilité que j'ai eu étant enfant quand mon frère est né. Je devais avoir 2 ans. Entre mon frère et moi, il y a 1 an de différence. Donc j'avais deux frères qui étaient nés 3 ans auparavant, donc qui étaient jumeaux. J'étais la seule fille. Mmh. Donc j'étais la fille très attendue de mes parents. Et derrière moi, donc, est arrivé mon frère. Et j'ai très mal vécu la naissance de mon frère. J'aimais beaucoup mon frère, ouais. Mais pourtant, je l'ai très mal vécu. J'ai eu des sentiments très négatifs par rapport à mon frère, mais ça je ne m'en suis pas rendu compte. C'était totalement inconscient et j'ai eu notamment un désir de mort par rapport à lui. J'ai découvert des années après en faisant mon rêve. J'ai rêvé que mon petit voisin, j'avais un voisin au 3e étage, qui était, c'était 2 immeubles face à face. Et ce voisin, ce petit enfant, était dans la réalité réellement. C'était un petit enfant qui avait une maladie du foie et qui était décédé. Donc nos parents nous avaient dit que cet enfant était décédé. Bon, voilà. Et en fait, moi, j'avais rêvé que cet enfant n'était pas... je l'avais poussé par la fenêtre et que ce n'était pas cet enfant, mais que c'était mon frère. Et j'étais donc dans mon rêve, j'avais poussé mon frère par la fenêtre et je le voyais par terre, je le voyais en bas et je lui disais, oh, ben, de toute façon, on ne peut plus rien faire maintenant parce qu'il est mort. Voilà. Et et c'est en faisant ce rêve que j'ai compris qu'en fait j'avais eu un désir de mort auparavant pour mon frère.
Ouais.
J'ai ressenti une énorme douleur dans la poitrine. J'ai ressenti comme si on m'avait donné un coup de hache et qu'on m'avait ouvert la poitrine. Et en fait, c'est à ce moment-là, j'étais petite, donc ça, ce rêve, je l'ai fait plus tard. Mm. Mais quand j'ai eu ce désir, un an après, j'ai commencé à avoir des problèmes graves pulmonaires. J'avais une caverne aux poumons.
Oui.
Et on a commencé à m'envoyer dans des préventoriums et des aériums et, mmh. et tout ce que vous voulez, voilà. Mmh. Voilà. Donc, ce désir de mort que j'avais eu, eh ben, il est revenu tel que je l'avais souhaité inconsciemment, en faisant une projection sur cet enfant qui réellement mmh. était décédé, et qui était au troisième étage en face de mon immeuble. Et moi, j'avais désiré que ce soit mon frère qui meure, et je l'avais poussé inconsciemment. Mmh. Vous voyez ce que je veux dire, oui. M. Parigny ?
Tout à fait, oui. Vous savez, c'est quelque chose de très fréquent. Hein.
Pardon ?
Je dis, c'est quelque chose de très fréquent, rassurez-vous.
Oui.
Quand il y a une naissance après... Et d'autant plus quand on a une place un peu privilégiée et qu'il y a une naissance après, donc quand on croit être le dernier puis qu'il y en a un qui arrive après, quand vous disiez j'étais la seule fille et un peu attendue de mes parents et puis il y a un autre enfant qui arrive après. Finalement, c'est très difficile. Alors, en plus, quand l'enfant réalise déjà qu'il a une place importante et qu'il vit la naissance de l'autre comme perdre sa place.
Voilà. Oui, tout à fait.
Et du coup, il y a souvent des désirs de mort et parfois... Parfois, on voit des petits enfants taper le bébé dans le berceau, lui faire du mal, lui mettre le doigt dans l'œil, enfin, vous voyez.
Oh là là, non, moi, je faisais l'inverse. Je surcompensais, c'est-à-dire que je m'occupais beaucoup de lui. Ça a été mon frère préféré, du reste. Je l'ai toujours beaucoup protégé, même maintenant. Je pense que je ne me suis jamais pardonné cette culpabilité-là. Je ne me suis jamais pardonné ça. Mmh.
Bah, vous pouvez, parce que c'est quelque chose d'assez ordinaire et d'assez fréquent, mais finalement qui est refoulé, ce sont des réactions d'enfants, et avec la compréhension d'un enfant qui, en plus de 3 ans, c'est un âge où il y a quand même pas mal d'agressivité chez l'enfant, et quand il y en a un autre qui arrive, c'est normal qu'il ne soit pas content et qu'il a envie que l'autre... Alors, ce n'est pas forcément dire de le tuer, vous voyez, le rêve,
c'est symbolique,
le désir qu'il ne soit pas là, et le moyen pour qu'il ne soit pas là, c'est qu'il soit mort, finalement.
Oui, mais vous savez, j'ai l'impression aussi que quand vous avez été touché comme ça par un sentiment de culpabilité fort, parce que c'est fort, c'est très très fort, ça vous dérange, hein, ça vous dérange complètement, ça dérange votre... ça vous déstructure, ça... C'est très très fort. Mmh. Eh bien, vous le ressentez pour beaucoup d'autres choses après.
Tout à fait, oui. Ouais, tout à fait.
Oui.
C'est là où, quand on disait, plus on descendait dans la profondeur, plus ça devient compliqué parce que ça diffuse un peu dans la vie de la personne. Et un sentiment de culpabilité finalement qui naît dans l'enfance comme ça, après il peut se ressentir pour tout ce qui est de l'ordre de l'agressivité, par exemple.
Moi je l'ai retourné contre moi.
Voilà.
Moi j'ai retourné toute cette violence, parce que ça en accumule de la violence. Dans cette culpabilité, c'est comme une prison, on s'enferme dans une prison, et à un moment donné, il faut que ça sorte, il faut que ça explose tout ça, parce que bon, il y a eu l'histoire de mon frère, puis il y a eu d'autres choses aussi, d'autres problèmes. Au fur et à mesure, c'est comme une, comment vous dire, c'est comme une faille, et puis après on s'y engouffre là-dedans.
Voilà.
Et voilà. Et en fait, moi, je suis devenue excessivement dépressive, très suicidaire, et voilà, et je m'en suis sortie parce que j'ai eu un excellent thérapeute, mais qui ne m'a jamais lâché. Voilà.
Voilà, bah écoutez, merci de votre témoignage qui montre bien aux personnes comment ça peut s'enraciner dans des choses très anciennes de la petite enfance.
Merci, voilà. En tout cas, Sonia. Merci, bonsoir.
Au revoir.
Alors, il y a Marie-Josée, là, elle ne souhaite pas passer, mais elle a dit elle a été violée à 17 ans. Elle en a aujourd'hui 54 et elle s'en veut encore. Elle se trouve lâche de n'avoir rien fait. Elle est en grande souffrance. Elle n'a pas porté plainte pour protéger sa famille. Voilà, donc... cette situation, est-ce que vous pouvez
l'aider? Ce qu'on peut dire, c'est que quand on est violé, on est la victime.
Ah oui.
Et que c'est important de réaliser ça, que la personne violée, c'est la victime, et le coupable, c'est le violeur.
Ah oui.
Hein? Alors... Ce qu'elle vit est quelque chose de très fréquent finalement aussi, parce que la victime finalement, elle porte pratiquement très souvent, on pourrait dire très souvent, en tout cas, tant qu'il n'y a pas eu une reconnaissance vraiment que le coupable c'est l'autre et qu'elle est la victime, sinon il y a très souvent de la culpabilité de pas avoir su se défendre, d'avoir été à cet endroit-là, ce jour-là. Il y a tout un tas de...
Oui.
Parce que c'est un traumatisme.
Oui, bien sûr.
Et que face à ce traumatisme-là, la personne essaye de raisonner en quelque sorte, mais de raisonner en y mettant de la culpabilité. Parce que elle a pas pu éviter,
oui.
En gros.
Oui, monsieur, oui.
Mais ce qui est important, c'est qu'elle prenne vraiment conscience
qu'elle
a été la victime.
Donc,
et que le coupable, c'est la personne qui lui a fait ça. Finalement, son désir de protéger sa famille, c'est très louable. En même temps, ça l'aurait sans doute plus aidé si elle avait pu en parler à quelqu'un. Alors, je ne sais pas à qui, mais entre autres, les psys sont faits pour ça. Et puis, si elle avait pu porter plainte, et aujourd'hui, c'est ce qui est conseillé à toutes les victimes de viol, pour qu'il y ait une reconnaissance vraiment officielle de la culpabilité de l'autre et que la personne est bien victime. Vous voyez, c'est finalement la justice, indépendamment de punir le violeur, elle est aussi là pour reconnaître que cette personne, c'est elle la coupable. Voilà, donc c'est vrai, je crois que c'est ça dont il faut qu'elle prenne conscience.
Et ça peut aider la personne à sortir de sa culpabilité.
Et du coup, ça aide beaucoup la personne à sortir de sa culpabilité. Et je crois que c'est vraiment ça qu'il faut que cette personne prenne conscience, c'est qu'elle a été victime de quelqu'un d'autre. Et qu'elle y est pour rien. Quand on est une victime, on y est pour rien. Et du coup, il n'y a, y a aucune raison de se sentir coupable. Mm-hmm. Voilà. Et que peut-être...
c'est le traumatisme qu'il faut sortir. Voilà.
Alors, peut-être, comme c'est quand même un traumatisme extrêmement violent, ça, ça serait bien qu'elle puisse se faire aider.
Même alors, longtemps après. Hein.
Même longtemps après, voir un psy pour se faire aider. Et on peut comprendre son désir de protéger sa famille, mais chez un psy, tout ce qui se dit est strictement confidentiel, et du coup, elle peut à la fois se faire aider, parler avec quelqu'un, tout en conservant son désir de protéger sa famille et son environnement.
Voilà, merci Pascal Parinet. On va écouter Monique. Monique, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Bonsoir Monique.
Allô ?
Oui.
Vous m'entendez bien ?
On vous écoute, oui.
Voilà. Mais écoutez, moi j'appelais tout simplement parce que il m'a semblé que depuis le début de l'émission, on parlait beaucoup des personnes qui avaient beaucoup de culpabilité et quelquefois trop de culpabilité. Il y a aussi les personnes qui n'ont aucune culpabilité.
Tout à fait.
Alors,
oui.
C'est certainement une pathologie, j'imagine.
Oui.
Mais c'est vrai que, alors je ne sais pas si ces personnes-là ressentent, souffrent de quoi que ce soit, mais en tout cas, pour leur entourage, c'est une vraie souffrance.
Oui.
Alors, est-ce que ces personnes qui n'ont aucune culpabilité, bon, parce que ce sont des narcissiques, des manipulateurs, etc., est-ce qu'il peut y avoir un jour un réveil de leur conscience, ou bon, nous parlons de personnes qui ont quand même été élevées dans un milieu catholique, donc avec quand même une éducation à la conscience et aux valeurs, qui devraient quand même leur faire prendre conscience de certaines choses, voilà.
Bah,
peut-être
c'est...
que tout ça est mal formulé, je ne sais pas comment.
Non, mais c'est très bien formulé. Le problème, c'est que c'est pas une question de milieu.
Non, voilà, c'est ça.
On est vraiment dans une question de conscience morale, si vous voulez, ou de surmoi, si pour le dire en termes de psy. C'est-à-dire que finalement la règle sociale n'a pas été intégrée.
Oui, c'est ça, en fait. Oui.
Alors, c'est pas une question de milieu, c'est vraiment lié à des événements de la petite enfance. Alors, en tout cas, au vécu enfant et à comment c'est pas passé l'Œdipe, finalement. Comment c'est mal passé l'Œdipe, puisque c'est avec l'Œdipe qu'on intègre pleinement la loi morale.
D'accord.
Alors, on voit des patients comme ça en thérapie. Souvent, d'ailleurs, ils viennent après coup ou après qu'il y ait eu un drame, alors soit dans la famille, soit à l'extérieur.
Oui.
Voilà.
Un drame qui leur a fait prendre conscience de quelque chose
Non, pas prendre conscience. Ils y vont parce que le drame est là et que tout le monde autour leur dit « mais il faut faire quelque chose ».
Ah oui, un gros drame, oui.
Voilà.
D'accord.
Et du coup, tout le travail de thérapie, finalement, c'est tout le contraire de ce que j'ai dit avant. C'est-à-dire, autant j'ai dit il faut aider les personnes à se libérer de cette culpabilité et à résoudre ce problème de culpabilité. Pour ce type de personnes, c'est le contraire. Il faut les aider à prendre conscience de leur culpabilité. Parce que y a pas de, je parle dans certains cas extrêmes. Hein, après, faut nuancer. Il peut y avoir un peu, pas du tout. Enfin, vous voyez.
Oui.
Mais on va dire quand il n'y a pas du tout de culpabilité, tout le travail de thérapie, ça va être d'aider les personnes à prendre conscience de la gravité de leur acte,
oui.
du mal qu'ils font ou qu'ils ont fait aux autres, et donc à prendre conscience que ce qu'ils ont fait c'est interdit et que c'est mal,
oui.
Voilà, et du coup à progressivement pouvoir établir en eux une loi morale pour qu'ils puissent ressentir de la culpabilité.
D'accord. Encore faut-il vouloir faire la démarche.
Alors, encore faut-il vouloir faire la démarche et on pourrait dire souvent quand ils la font, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose et que la famille leur a dit « maintenant ça suffit, faut vraiment que tu vois quelqu'un pour te faire soigner
oui. ».
Ou parfois c'est la justice même. Hein. Maintenant, il y a de plus en plus d'obligations de thérapie voilà, pour des personnes.
D'accord.
Voyez.
Très bien.
Voilà, merci de votre question.
Merci infiniment.
Merci infiniment
de vos émissions.
Merci de votre question parce que ça permet de répondre à l'autre versant.
Ben oui, c'est
quand
ça.
Il n'y a pas de culpabilité.
On allait en parler, mais là, à travers votre question, merci, Monique.
Un grand merci.
À vous
merci.
Aussi. Bonsoir.
Un grand merci. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, 01 56 56 44 00. On se retrouve dans quelques instants.
Chaque dimanche soir de carême, à 21h, retrouvez sur Radio Notre-Dame les conférences de Notre-Dame sur le thème « L'homme, un être appelé ». Avec ce dimanche, Mgr Michel Aupetit, évêque auxiliaire de Paris.
Bonjour, ici Edith Walter, l'agenda musical. Je vous retrouve pour vivre la musique avec ceux qui la font. Qu'ils soient pianistes, violonistes, violoncellistes, flûtistes, clarinettistes, chefs d'orchestre, metteurs en scène, je les reçois tous les vendredis à 16h. Ils vous parleront de leur prochain concert, de leur dernier disque, de l'opéra qu'ils vont diriger. Et ils vous diront aussi leur joie, leur espoir, leur solitude, leur réussite, leur passion, leur amour de la musique qu'ils souhaitent partager avec vous, ainsi que cette musique que nous écoutons ensemble.
L'agenda musical, tous les vendredis à 16h sur Radio Notre-Dame.
Qu'est-ce que j'ai dans ma petite tête à rêver.
ADF Bayer Music vous présente un extrait du nouvel album Chanson de la collection des trésors de Studio SM.
La fête d'un grand ciel que je voudrais voir.
Retrouvez la collection des trésors de Studio SM chez tous les libraires disquaires et sur le site adf-bayermusic.com.
Bruno Courtois, directeur général de Radio Notre-Dame.
Après la pauvreté en janvier, la famille est le thème de notre deuxième journée de débat. Reportages, témoignages, interviews et bien sûr tables rondes se succéderont tout au long de ce 19 mars. Avec en prime, un débat le soir en direct de la conférence des évêques de France à Paris. Parce que l'antenne de Radio Notre-Dame se doit d'être un lieu d'échange, de réflexion et de recherche. Quel regard porter sur les familles d'aujourd'hui, ce sera le thème du 19 mars cette année à l'occasion de la Saint-Joseph.
Radio Notre-Dame, la vie prend un sens.
Voilà, donc ce soir, avec Pascal Brinet, nous psychanalyste et gestalt-thérapeute, nous parlons de la culpabilité, comment gérer la culpabilité, comment en sortir. Est-ce que vous avez des stages aussi sur la culpabilité ?
Sur la culpabilité, non. Enfin,
pas directement,
mais on a des stages sur l'affirmation de soi, sur la confiance en soi, sur la gestion des émotions, qui sont suffisamment ouverts
pour atteindre et
travailler cette difficulté-là. Et puis, dans nos stages, on travaille beaucoup à partir de ce qu'amènent les personnes. Alors, même quand il y a un thème un peu qui donne un peu une ligne directrice, On travaille aussi avec ce qu'amènent les personnes. Mmh. Et voilà, et on peut ne pas oser s'affirmer par manque de confiance en soi, mais parce qu'on se sent coupable, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, parce que...
On est trop émotionnel ou trop...
Donc, en fait, au-delà du thème du stage, chacun amène sa propre problématique et ce qu'il veut travailler plus particulièrement.
Et chacun bénéficie de ce que l'ensemble.
Voilà, dans les stages, chacun, en tout cas, quand une personne travaille, parce qu'on a quand même 80% de fonds d'humanité commun.
Oui, c'est ça.
Et puis 20% de
personnel.
Et du coup, ce que travaille l'un résonne chez l'autre et aide à comprendre et parfois à résoudre.
Alors, vous pouvez nous donner peut-être redonner les coordonnées, si
oui.
Ça peut
alors,
intéresser les personnes.
Le téléphone, c'est le 06 60 15 79 60 06 60 15 79 60 et puis le site internet psychrétien.com
en un seul mot.
Voilà, psy PSY chrétien au singulier.
Oui.
.com et là on peut nous contacter par mail pour poser des questions. Voilà, et du 24 au 26 mars, il y a un stage sur l'affirmation de soi.
L'affirmation de soi, donc là ça peut toucher aussi cette question.
Voilà.
Merci Pascal Parinet. Alors peut-être alors la culpabilité, lorsqu'elle est consciente, lorsqu'elle est justifiée. Qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Alors, normalement, à ce moment-là, elle précède ou elle suit l'action. Ce qui est logique, c'est qu'elle précède, c'est-à-dire quand on sait qu'on se prépare à faire quelque chose et qu'on a conscience que c'est mal, normalement, on se sent coupable par avance.
Mmh.
C'est ce qui nous empêche
de passer à l'acte.
De passer à l'acte.
Oui.
Et donc, dans ce cas-là, c'est quelque chose de sain, que ça nous, la culpabilité dans ces circonstances-là nous empêche de faire n'importe quoi dans notre vie.
Mm-hmm.
Donc, c'est quelque chose de sain, on se prépare à faire mal, la culpabilité nous arrête, et du coup,
on peut réajuster notre
comportement et nos actions.
Donc là, c'est positif, c'est une alerte.
C'est une alerte, c'est un signal d'alerte pour dire, attention, là, transgression, c'est interdit, en gros.
Alors là, ça précède et c'est logique.
C'est sain,
on peut dire.
C'est ça. Après, il y a des fois, on pourrait dire, il y a ça, on ne l'entend pas bien, cette culpabilité-là. Et du coup, on va quand même faire quelque chose de mal et puis on va se sentir coupable après. Mais c'est quand même ça parce que ça va nous pousser à réparer. Donc pour éliminer ce sentiment de culpabilité, on va vouloir réparer le mal qu'on a fait. On va aller demander pardon à l'autre, par exemple. Et du coup...
Prendre conscience à ce moment-là.
Voilà. Et puis, pour la fois d'après, ne pas reproduire. Et du coup, dans ce cas-là, même si on l'a écouté un peu tard, finalement, c'est quand ça reste quand même quelque chose de sain qui va nous éviter de reproduire et qui va nous permettre de réparer et demander pardon.
Oui.
Voilà.
Oui. Alors,
Et donc, on pourrait dire, quand elle est saine, la culpabilité, c'est ce qui nous protège et nous empêche de faire ce qu'on sait comme étant mal.
Mm-hmm. Hein.
Finalement, la culpabilité, elle nous protège du péché pour le chrétien.
Oui, bien sûr, oui. Et donc, là, c'est positif. Alors, lorsque la culpabilité, alors, elle est inconsciente, lorsque c'est inconscient.
Voilà, alors c'est là où les choses se compliquent.
Comme disait notre auditrice tout à l'heure, peut-être.
Voilà, parce que ça veut dire que la personne, elle a pas une intention de faire quelque chose de mal, elle a pas conscience d'avoir fait du mal, mais elle se sent coupable. Ou en tout cas, elle ressent quelque chose dans son corps qui... des sensations, des sentiments qui... une fois que c'est mis à la conscience, lui dirait que c'est de la culpabilité, mais elle n'en a pas conscience. Et du coup, ça veut dire que dans ce cas-là, ça existe, cette culpabilité existe avant la faute, et on va trouver comme ça des personnes qui, c'est ce que je disais tout à l'heure, qui vont aller à l'échec, pour savoir de quoi ils sont coupables ou qu'ils vont faire des choses répréhensibles pour savoir de quoi ils sont coupables.
Pour que ça arrive
finalement, c'est ce côté, cet aspect inconscient de la culpabilité qui va les pousser à aller vers la faute, à aller vers ce qui est mal, pour se libérer de ce sentiment inconscient. Et puis... Donc ça, c'est un aspect. Et puis, cette culpabilité-là, elle peut être liée aussi à des motions intérieures dont on n'a pas conscience. À l'agressivité, par exemple. On n'est pas toujours conscient de notre agressivité. Et on peut en vouloir à quelqu'un, être agressif avec, sans en être conscient. Et à ce moment-là, avoir... une culpabilité par rapport à des fantasmes inconscients. Voilà, et on se retrouve un peu dans quelque chose d'un peu compliqué parce que il y a toute une partie qui est inconsciente et à laquelle on n'a pas accès. Et là, ça nécessite souvent de se faire aider. Alors ça, on la revoit quand toute cette culpabilité inconsciente, quand il y a de la répétition.
Ah oui.
C'est-à-dire soit que la personne finalement, alors elle se sent coupable mais sans savoir de quoi pour tout, finalement. Quelqu'un qui se sent coupable de tout, quelqu'un qui a des scrupules, je crois qu'une personne en témoignait tout à l'heure, quelqu'un qui serait tout le temps dans des répétitions d'échecs, voilà. Là, il y a un travail à faire pour mettre à jour. Il y a souvent une culpabilité inconsciente. C'est pas forcément le seul facteur, mais il y a très souvent une culpabilité inconsciente.
Oui. Voilà, donc c'est ce qu'on peut dire lorsque la culpabilité est inconsciente.
Voilà.
Alors, il y a Liliane qui posait cette question. Non, elle n'est pas en ligne, je la pose. Elle parlait de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus, qui a dit « Si j'avais commis tous les crimes de la terre, je me jetterais dans les bras de Jésus et je sais que je serais pardonnée. » Elle dit « Cette parole est un peu dangereuse parce que s'il s'agit d'un grand criminel, ce serait un peu facile. Il devrait y avoir un purgatoire où l'enfer sera plus long. » Enfin bon, voilà ce que je lis, en tout cas. Qu'est-ce que vous pouvez...
Mais je crois que c'est intéressant comme question parce que ça pose le rapport, l'articulation par rapport à la culpabilité entre ce qui est psychologique et ce qui est spirituel. Là, Thérèse, elle parle au niveau spirituel.
Elle
dit, elle est tellement convaincue de la miséricorde de Dieu qu'elle pourrait avoir commis tous les crimes, que voilà, elle se sait ou elle espère être pardonnée, en tout cas.
Elle en est convaincue, c'est tellement
soumis. Les grands criminels, ça rejoint la question de l'auditrice juste avant.
Oui, oui.
qui nous disait, mais ceux qui ne se sentent pas coupables, voilà, qu'est-ce qui se passe?
La question que nous disait Monique, que posait Monique.
Alors, pour répondre à ça...
C'est pas le même plan. Bah oui.
Les grands criminels, enfin, ou les personnes qui sont dans la répétition de choses mal,
oui.
Y a un travail à faire au niveau psychologique.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, soit il y a un sentiment inconscient de culpabilité qui les pousse vers la faute, soit il n'y a pas du tout de conscience de culpabilité et du coup, ils font n'importe quoi, en gros. Et dans les deux cas, ça relève de la psychologie.
Mm-hmm. C'est pas le plan spirituel.
Ouais, ouais. Après, ils se posent la question de quelqu'un qui a fait mal, qui a fait du mal, et même qui n'aurait pas conscience, par exemple, un criminel qui n'aurait pas conscience du mal qu'il a fait.
Mm-hmm.
Le travail psychologique va être là, c'est ce que je disais juste avant, pour l'aider à prendre conscience de ce mal,
oui.
De façon à ce qu'il intègre en lui des règles et des lois de vie commune,
mm-hmm.
Et donc des limites.
Oui.
Et avec ces lois et ces limites, il va pouvoir se sentir coupable avant de faire mal. Ou en tout cas, quand il aura fait mal, il se sentira coupable.
Mmh.
Donc ça, c'est remettre de la loi,
oui.
Permettre à la personne d'intégrer la loi. Et ça, c'est un travail psychologique. Mais pour le mal qu'elle aura fait, la personne, ok, elle va sentir coupable, mais on ne lui pardonnera pas. Le psy, il ne peut pas donner le pardon à quelqu'un.
Oui, oui.
Il travaille sur la culpabilité. Si elle est justifiée, la personne a fait du mal, vous sentez coupable, c'est normal.
Oui.
Si elle n'a pas fait de mal, ça veut dire qu'il y a un problème psychologique et que ce n'est pas normal. Mais c'est là où entre en jeu la dimension spirituelle et où on change de plan.
Mm-hmm.
C'est-à-dire, moi, quelqu'un qui viendrait me dire « j'ai tué quelqu'un, je me sens coupable », je peux rien faire pour lui. Je lui dirais « monsieur, tant mieux ».
Tant mieux, oui, parce que
tant
moi,
mieux,
vous êtes
parce
conscient.
Que,
oui.
J'espère bien que vous vous sentez coupable d'avoir tué quelqu'un.
C'est sûr. Oui.
Après, si c'est un accident ou autre, on peut regarder les circonstances.
Oui, c'est ça, aider sur un plan psychologique. C'est pas suffisant pour cette personne.
Mais je peux pas lui dire, monsieur, je vous pardonne.
Non, c'est pas votre domaine.
Par contre, je peux lui dire, écoutez, là, c'est vraiment pas mon domaine.
Oui.
Aller voir un prêtre pour recevoir le sacrement de réconciliation et dans la mesure où la personne est croyante ou même si elle n'est pas croyante, lui dire vous savez, il peut exister s'il y a quelqu'un qui peut vous pardonner, c'est pas moi, c'est Dieu. Et dans ce cas-là, aller voir un prêtre pour recevoir le sacrement de réconciliation. Mais on n'est plus dans le même niveau de la personne, c'est-à-dire que mon travail va être de regarder qu'est-ce que c'est que cette culpabilité ou cette absence de culpabilité psychologique. Et puis après, pour ce qui s'est passé réellement dans les faits, si la personne a fait du mal... si elle veut vraiment trouver la paix, c'est avec Dieu qu'elle va régler ses comptes, c'est pas avec le psy.
C'est ça, c'est un autre plan. Ouais.
C'est un autre plan.
Oui. Donc c'est important de voir qu'il y a des... C'est pas le même... Parce que ça doit se produire peut-être l'inverse aussi. Vous pouvez envoyer dans ce cas-là un prêtre, mais le prêtre... peut avoir au confessionnal des personnes qui ont un problème de culpabilité qui relèverait plutôt du psy et
voilà par exemple les scrupules.
Ah oui.
En fait, les cas extrêmes, ils sont intéressants pour clarifier les choses.
Oui.
Pour beaucoup de gens, on pourrait dire la majorité des gens, c'est pas aussi clair que j'ai tué quelqu'un, je me sens coupable.
Oui, oui.
Voilà, beaucoup de prêtres reçoivent, par exemple, des personnes qui ont des scrupules et qui vont se confesser. J'ai connu des patients, c'était quasiment tous les jours qu'il fallait qu'ils aillent se confesser, grand maximum toutes les semaines, mais toutes les semaines, c'était déjà trop parce que ça générait de l'angoisse chez eux. Et même quand ils y allaient comme ça sans arrêt, ça n'apaisait pas leur angoisse, ou ça l'apaisait quelques heures ou une journée, et puis ça revenait. Et là, très souvent, les prêtres, ils se rendent bien compte que c'est pas quelque chose de l'ordre de la dimension spirituelle, et ils renvoient vers un psy.
Oui.
Parce qu'on est vraiment dans un problème psychologique. C'est vrai pour les scrupules, c'est vrai pour les problèmes d'addiction aussi, où la personne fait tout ce qu'elle peut, elle va se confesser.
Elle culpabilise. Et donc,
parce qu'elle n'arrive pas à changer son comportement.
Oui.
Mais je dis l'addiction, mais on pourrait dire pour tout comportement qui culpabilise la personne et qu'elle n'arrive pas à changer finalement. À ce moment-là, c'est pareil, on n'est plus dans le domaine spirituel. Alors, qui est le pardon parce que la personne,
à travers son comportement,
a fait du mal ou a péché?
Ça,
à ce
c'est
moment-là,
une chose, oui.
Il y a le sacrement de réconciliation qui est là.
Mais sur un autre plan,
ça revient sans arrêt, indépendamment de tous les efforts et de la volonté de la personne, à ce moment-là, elle a besoin d'une aide psychologique pour régler sa difficulté.
Voilà, ça me paraît très important d'avoir fait cette la part des choses, quoi.
Voilà. Hein?
Merci, Pascal Parinet. Donc, nous parlons ce soir de la culpabilité, comment la gérer, comment en sortir. On écoute René Aubry, Regarde les autres.
Radio Notre-Dame.
Thank you.
Voilà, donc nous parlons de la culpabilité. Alors on a dit lorsqu'elle était justifiée, lorsqu'elle était inconsciente, et lorsqu'elle est chronique, alors peut-être un mot.
Alors quand elle est chronique, ça, souvent ça occasionne des souffrances importantes chez la personne. Dès que c'est chronique, ça veut dire que on est face à un trouble psychologique. Voilà. Et dans ce cas, ça veut dire que la personne a besoin de se faire aider.
Oui, c'est ça.
Parce que il n'y a aucune raison d'être coupable d'une façon chronique. On ne commet pas tout le temps des choses répréhensibles.
Oui.
Et du coup, si c'est chronique, ça veut dire que on est dans une culpabilité qui est de l'ordre d'un trouble psychologique ou de l'ordre des scrupules. Il faut se faire aider pour résoudre ça.
Oui, il faut se faire aider. Là, voilà. C'est oui. Là, quand c'est chronique, on perçoit bien, oui.
D'autant plus que ça amène la personne à se sentir de plus en plus coupable, parce que le problème de la culpabilité, c'est que elle incite la personne à se couper des autres à cause de sa culpabilité, donc à se refermer sur elle-même. Mais en se refermant sur elle-même, elle se sent d'autant plus coupable de ne pas aller vers les autres.
Oui.
Mais du coup, elle se referme encore plus sur elle-même et on est dans un cercle vicieux culpabilité, refermement, isolement, encore plus de culpabilité et ainsi de suite.
Oui, alors là, pour en sortir...
Voilà, il faut vraiment se faire aider.
Si la personne est en mesure de une certaine conscience ou accepte.
Alors, c'est la liberté à chacun de.
Parce qu'il y a pu y avoir du déni et tout ça, enfin voilà, bon, derrière tout
de
ça.
De se faire aider. Mais je crois que quand on a un mal-être, faut se faire aider. Et après, si la personne préfère rester avec son mal-être, personne ne peut rien pour elle.
Eh bien oui, c'est ça, bien sûr, ça c'est la liberté de chacun. Alors, on va peut-être voir comment on passe de la culpabilité à la responsabilité, mais peut-être cette question de Marie-Thérèse pourrait éclairer, je ne sais pas. En tout cas, elle souhaiterait une réponse. Elle a lu dans un bouquin d'anatomie que certaines lésions des hémisphères cérébraux annihilaient le sens moral d'un individu. Dans ces conditions, ces personnes peuvent-elles être coupables de leurs actes? Cette théorie est-elle toujours d'actualité? Qu'en pensez-vous?
Ce qui est sûr, c'est que certaines attaques cérébrales, physiques du cerveau, peuvent avoir un impact. Alors, sur la culpabilité, sur la possibilité de choisir, de dire non, voilà. On est dans une lésion physiologique. On peut pas dire que la personne y soit pour quelque chose. Elle y peut rien, c'est indépendamment d'elle.
Bien sûr, c'est de l'ordre de la maladie.
C'est de l'ordre de la maladie.
Oui. Et pas psychologique, là, c'est physique, c'est physiologique.
On n'est pas dans le psychologique, on est vraiment dans le physique.
Oui. Une lésion, bien sûr.
S'il y a une lésion une lésion ou une tumeur dans certaines parties du cerveau qui... quelle que soit la problématique, d'ailleurs, qui affecte le comportement de la personne, c'est pas psychologique, c'est physiologique.
Mais alors, dans ce cas-là, la culpabilité des actes...
La personne n'est pas coupable. Mais il y a une loi sur la culpabilité, plutôt sur la responsabilité pénale.
Oui.
La même façon, alors là, quand il y a une lésion, bah, de toute façon, c'est clair, enfin, c'est...
Oui, la responsabilité n'est pas engagée.
Mais par exemple, quand il y a une pathologie psychique grave, une psychose, par exemple, et que la personne est en délire, quand il y a un délire, elle n'est pas responsable de ses actes.
Ça la dépasse.
Voilà. Ça la dépasse, elle est prise dans le délire et elle est complètement coupée de la réalité. Et du coup, légalement, elle n'est pas responsable des actes
qu'elle
peut commettre. Ce qui n'empêche pas qu'elle doit se faire soigner. Hein? Et dans ce cas-là, quand il y a un procès, la personne est non coupable au sens légal. Mais elle est internée pour se faire soigner.
Oui, bien sûr, voilà. Donc, alors passons justement, comment passe-t-on de la culpabilité à la responsabilité, Pascal Parinet ?
Alors, je crois que ce qu'on a dit, c'est que la culpabilité saine, c'est ce qui protège l'individu d'un acte répréhensible. Un peu, on pourrait comparer ça à la barrière d'un passage à niveau qui nous empêche de nous mettre en danger.
Bah oui, c'est ça, oui.
Et la culpabilité, c'est la même chose. Donc, c'est quelque chose d'indispensable à la vie et au fonctionnement en société. Mais la question, c'est quand ça devient une souffrance... À ce moment-là, je crois que c'est important de prendre vraiment conscience de tous les éléments inconscients qui rentrent en jeu dans cette culpabilité. On a parlé du surmoi, de l'idéal, de la conscience morale. Et on pourrait dire que c'est par cette prise de conscience que la personne va... d'une certaine façon, pouvoir sortir d'une culpabilité qui serait malsaine pour accéder à une responsabilité qui serait saine. C'est-à-dire que, voilà, quand la culpabilité est saine, y a rien à faire, c'est normal.
Oui.
Voilà, ça, il ne faut pas y toucher.
Ah, oui,
la personne a fait quelque chose de mal, elle se sent coupable.
C'est normal, c'est
positif, c'est bien, et c'est ça. Voilà, la question, elle se pose pour toutes les culpabilités qui sont au-delà de la normalité, finalement.
Oui.
Et à ce moment-là, quand la personne va comprendre tous les enjeux inconscients, et surtout prendre conscience que cette culpabilité, finalement, elle n'est pas fondée ou elle est liée à une morale mal comprise et trop rigide, ou à un idéal beaucoup trop élevé, ou même à des fantasmes inconscients ou à une agressivité inconsciente. À ce moment-là, quand elle prend conscience de tout ça, elle peut réajuster les choses.
Et donc passer de cette culpabilité à la responsabilité.
Voilà, et à ce moment-là, elle devient responsable en étant consciente, elle devient responsable d'elle-même, et du coup, responsable aussi de ses actes et des choix qu'elle va poser. Et c'est là où, finalement, y a la personne, d'abord, la responsabilité, ça ne fait pas souffrir, même si pour certaines personnes, ça peut être angoissant, mais...
C'est un autre registre.
Et la personne va pouvoir assumer par sa responsabilité. Si elle a fait quand même du mal et qu'il y a une part qui reste de culpabilité, elle pourra l'assumer. Et du coup, la vivre autrement, alors soit en allant demander pardon, soit en réparant, soit un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais elle assumera de se sentir coupable. Parce que c'est justifié.
Oui.
Et pour la part qui relevait vraiment d'une problématique psychologique, eh bien, elle pourra s'en libérer et assumer la responsabilité de ce qui était inconscient et le réajuster au besoin, dire ben, mon idéal finalement je l'ai mis extrêmement haut, je voulais être le plus grand saint du monde et j'y arrive pas, c'est un peu normal et je baisse un peu mon idéal.
Oui. D'ailleurs, Sainte Thérèse, c'est par la petitesse qu'elle...
Voilà.
voilà hein. Et on sait qu'elle a eu aussi des problèmes psychologiques, de scrupules et tout cela. Voilà. Mais elle a su régler tout ça...
En prenant un autre chemin.
En passant par le bas pour arriver vers le haut. Voilà. Donc dans les profondeurs pour arriver dans ce qu'elle a vécu de... Oui.
Voilà.
Et là, on passe de la culpabilité, elle, à la responsabilité et universelle, ouvrant sur le spirituel, enfin, dans cette dimension, c'est pour ça qu'elle passe son ciel à faire du bien sur la terre, parce qu'elle a ouvert à cette dimension-là.
Et elle est sortie des scrupules, surtout, donc elle a réglé ses problèmes de culpabilité, peut-être par une exigence, parce que... Souvent, quand on rentre très jeune comme ça au monastère, il y a tout un idéal.
Bien sûr. Ouais.
Et du coup, peut-être ça a entraîné des scrupules importants de ne pas arriver à atteindre cet idéal. Et en changeant sa vision, en devenant responsable et en choisissant la petite voie, à la fois libérée de cette culpabilité scrupuleuse. Et ouvert à d'autres possibilités, finalement beaucoup plus grandes que ce que son idéal lui disait.
Un grand merci, Pascal Parinet. Voilà, donc je rappelle le téléphone de Psy Chrétien, 06 60 15 79 60, psychrétien.com. Alors rappelons que vous serez, comme chaque mois, une fois par mois, à l'espace Bernanos, le 20 mars, le jeudi 20 mars, dans une semaine. Comment faire face aux peurs et aux phobies, ce sera le thème.
Voilà, c'est à 18h30.
18h30, voilà. Un grand merci. Merci à Joël, Jessica et Edith au standard, à Guillaume à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Demain à 22h, écoute dans la nuit, notre invité sera le pasteur Philippe Osney, qui exerce un ministère itinérant, particulièrement auprès des personnes en souffrance. Le thème de la soirée, renoncer à soi-même et porter chaque jour sa croix. Comment donc le vivre. Voilà, je vous souhaite une très très bonne nuit à tous. Et puis, demain aussi, dans les semeurs d'espérance, comme chaque mois, à Saint-Gervais avec Nicolas Butet. Très bonne nuit à tous, à demain.
Retrouvez le podcast de cette émission sur le www.radionotredame.com.
En ce jour qui s'achève, nous nous tournons vers la Vierge Marie. Et nous la prions avec les moniales bénédictines de l'abbaye Saint-Michel de Kergonan.
Amen.